Seuls les plus forts survivent. Je serai le plus dur, le plus fort, le plus malin. Celui qui parle ainsi peut être appelé le Saint Paul du XXe siècle, Sergueï Kourtakov. Sergueï est russe. Né en 1951, Sergueï vit ses 4 premières années avec ses parents jusqu'à ce que son père disparaisse et que sa mère meure. À 6 ans, le fils de sa famille d'accueil essaye de le tuer. Il s'enfuit donc et part survivre dans une gare. La police l'attrape et l'envoie dans un orphelinat d'État. Il a 12 ans. À cette époque, l'URSS vit une grande famine. Les plus forts de l'orphelinat, dont Sergueï, pillent les gens des environs. Les plus faibles meurent de faim. Sergueï assiste à la mort de l'un d'eux. Sa conception de la vie change alors radicalement. « Seuls les plus forts survivent », écrit-il. « Je serai le plus dur, le plus fort et le plus malin ». L'orphelinat fonctionne en circuit fermé avec ses propres codes. Sergueï devient le roi de tous les enfants. Vers 15 ans, Sergueï et sa bande se mettent à vendre du haschich et à transporter des drogues dures pour la pègre locale. Parallèlement, le jeune garçon décide de gravir les échelons du parti. Il adhère pleinement aux principes du communisme et à ses objectifs. À 17 ans, il devient le meneur de la Ligue des jeunes et se trouve à la tête de la meilleure ligue du district. Un avenir glorieux au sein du parti s'annonce pour lui. En 69, le major du KGB convainc Sergueï de devenir un collaborateur de la police. Les actions qu'il doit diriger seront menées contre des ennemis du peuple. Sergueï accepte car le salaire est conséquent. Chargé de rassembler une équipe de 20 personnes, il choisit des judokas, karatéka et boxeur, les plus aguerris de l'académie. Sergueï est mis au courant de la vraie mission. Persécuter les croyants, présentés comme des criminels, et confisquer toute la littérature interdite qu'ils utilisent. Le déroulement des opérations est toujours le même. Une demi-heure après le début de l'assemblée, la force pénètre par effraction dans le lieu du rassemblement. En moins de 5 minutes, tous sont KO. Un jour, une razzia a lieu dans une chambre où sont réunis 15 croyants. Sergueï remarque une très belle fille qui montre un grand courage, Natacha. Lors d'une nouvelle razzia, elle est encore là. Sergueï, exaspéré, la bat jusqu'au sang pour qu'elle comprenne. La jeune fille doit se faire soigner à l'hôpital. Sergueï, interloqué, étudie sa vie professionnelle et privée, rend visite au journal dans lequel elle travaille et dénonce la foi de Natacha. Il en fait une paria et détruit sa vie professionnelle. Finalement, il la convoque au poste de police. Un face-à-face court mais saisissant. Une semaine après l'interrogatoire, Natacha est victime d'une 3e razzia. Sergueï lui fait signe de s'enfuir. La jeune femme part pour l'Ukraine. Car Sergueï se pose de plus en plus de questions. Le souvenir de Natacha me revenait sans cesse. Qu'avait-elle trouvé dans la religion pour qu'elle pût accepter d'être aussi sauvagement rossée? Peu après, au lieu de brûler un évangile manuscrit arraché aux mains des croyants, il conserve quelques passages de l'évangile de Saint Luc et découvre ce en quoi croyait Natacha. Tout à coup, les mots sautèrent de ces pages et s'imprimèrent dans mon cœur. En octobre 70, lors d'un raid, Sergueï tombe sur une vieille femme en train de prier. Énervé, il l'entend murmurer « Oh Dieu, pardonne à ce jeune homme, montre-lui le vrai chemin, ouvre-lui les yeux, aide-le ». Redoublant de colère, il prend son élan pour la frapper, mais une force mystérieuse qui lui fait mal l'en empêche. Il croit que c'est un de ses camarades, mais ils sont tous occupés. Perdant le contrôle de lui-même, il s'enfuit en pleurant. Il n'avait plus pleuré depuis l'âge de 6 ans. Comme saint Paul, le voilà terrassé. Grâce à un ami, il parvient à s'embarquer sur un sous-marin atomique patrouillant au large des États-Unis, décidé à ne plus remettre les pieds en URSS. Transféré sur un chalutier au large de Vancouver, il saute à l'eau, gagnant à la nage les côtes canadiennes. Il rencontre un pasteur qui l'aide et lui permet de dire un oui définitif à Dieu après avoir goûté sa miséricorde. Je naquis à nouveau. Malgré le danger, il témoigne dans les églises, à la télévision de sa conversion le 1er janvier 1973. Peu de temps après avoir écrit son histoire, il meurt d'une balle de pistolet. Après enquête, sa mort fut déclarée accidentelle.